Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas exactement le bon générique, mais c'est pas grave. Voilà, ça perturbe un petit peu nos habitudes et c'est très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clément Salazar et Caroline Bonin, qu'on accueille en stage, qui arrive aujourd'hui. On lui souhaite la bienvenue. Une émission réalisée aujourd'hui par Vincent Abouchard et mise en onde par Élise Leu. Nouvelle série consacrée cette semaine donc aux murs, des murs érigés pour garantir la paix, pour limiter l'immigration, encore pour protéger les économies nationales, des murs symboliques faits de tôles, de grillages, de béton qui protègent, rassurent, entravent, séparent, en tout cas des murs qui révèlent les traumatismes et les angoisses de nos sociétés. Toute cette semaine, le retour des murs. Mardi, nous reviendrons sur ces murs qui visaient à pacifier des conflits qui se sont pérennisés. Mercredi, on s'intéressera aux barrières douanières qui font leur grand retour. Jeudi, on prendra la direction de la Chine. Mais ce matin, on va évoquer celui qui avait promis de construire le candidat à la Maison-Blanche tout au long de sa campagne, les États-Unis, le Mexique, le mur de la peur.
Je construirai un grand, grand mur à la frontière sud et le Mexique paiera pour ce mur. Notez bien ces mots. Mark my words.
Quand le Mexique nous envoie ses gens, il n'envoie pas les meilleurs éléments. Il envoie ceux qui posent problème. Ils apportent avec eux la drogue, ils apportent le crime, ce sont des violeurs.
Nous reconnaissons et nous respectons le droit de tout pays de construire une barrière physique, un mur sur ses frontières pour stopper les mouvements illégaux des personnes, des drogues ou des armes.
C'est malheureusement si nécessaire. Cela aidera également le Mexique en dissuadant l'immigration clandestine d'Amérique centrale et en perturbant les réseaux de cartels violents. Ce jour sonne la fin de leur présence dans notre pays pour y faire des ravages. Nous allons les faire sortir et rapidement.
On va construire un mur magnifique, clamait Donald Trump pendant la campagne présidentielle. L'édification de ce mur frontière étant alors devenue la proposition phare de la politique promise par Donald Trump afin de protéger un pays supposément envahi de toutes parts. Désormais installé dans le bureau ovale, le 45e président des États-Unis a déjà signé le texte prenant les premières mesures permettant de bâtir cette barrière avec le Mexique. En effet, pendant des mois, il s'était engagé à expulser les clandestins délinquants, à ériger un mur sur les 3200 km de frontière avec son voisin, un mur qui en réalité existe déjà en partie sur plus de 1000 km, et surtout à faire payer les Mexicains pour ce projet pharaonique, envisageant plusieurs options, une taxe sur les produits mexicains, voire même un prélèvement sur les transferts d'argent des Mexicains émigrés vers leurs familles restées au pays. La concrétisation de sa promesse n'a pas manqué de provoquer une première crise diplomatique ouverte avec son homologue mexicain Enrique Peña Nieto annulant sa visite à Washington, et les tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser entre les deux administrations. Alors la promesse de Donald Trump est-elle tenable? Quelles seront les conséquences pour un Mexique dans une situation déjà extrêmement fragile? Sur le plan social, sur le plan économique, combien pourrait coûter le mur et comment sera-t-il finalement financé? Et puis enfin, que dit ce projet des angoisses de la société américaine? Si l'on replace les choses dans une perspective un peu plus large, on se rend compte que la surveillance et le contrôle de la zone frontalière est une préoccupation majeure depuis longtemps, au moins depuis les années 70, pour l'État fédéral, mais aussi pour les citoyens eux-mêmes. Comment le comprendre et qu'est-ce que ça révèle de la manière dont les États-Unis se pensent eux-mêmes et construisent leur propre identité nationale? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous en plateau ce matin. D'abord Alain Musset, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Alain Musset. Vous êtes géographe, un spécialiste du Mexique, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de plusieurs ouvrages, Le Que sais-je sur le Mexique qui était paru au PUF, mais aussi avec Laurent Vidal, Les territoires de l'attente qui était paru aux presses universitaires de Rennes. À vos côtés, Damien Simoneau, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Sciences Po Bordeaux et puis vous êtes enseignant à Paris 13. Vous avez écrit notamment un article entre suprématie blanche et cybersécurité paru dans la revue Politics, on en parlera tout à l'heure. D'abord, on va commencer avec vous, Alain Musset, et puis peut-être évoquer cette question de l'immigration. Parce que Donald Trump a beaucoup dénoncé l'immigration illégale et ses effets supposés sur la société américaine. Il est par définition très difficile d'avoir une idée du phénomène d'immigration illégale, puisqu'il s'agit évidemment de celle qui échappe bien sûr aux autorités. Mais il y a quand même des évaluations à partir desquelles on arrive à avoir des idées, et notamment en s'appuyant sur les personnes qui sont interceptées à la frontière. Et quand on regarde les choses, quand on regarde son évolution, on se rend compte d'une chose, c'est qu'elle a considérablement baissé en réalité. On avait atteint 1,6 millions de migrants illégaux en 2000, on est aujourd'hui à 330 000 personnes pour l'année 2015. Donc il est frappant de voir que Trump a fait campagne en pointant du doigt un phénomène qui en réalité est en recul. Alain Musset.
Tout à fait. Mais de toute façon, la peur ne se calcule pas. Donc c'est pas la peine d'avoir de vrais chiffres. Le tout, c'est de les mettre en valeur pour réussir à faire sa tambouille locale. Donc c'est vrai qu'il y a une chose qui est très importante et qu'on a tendance à oublier, c'est que les flux migratoires vers les États-Unis ont considérablement baissé. Vous l'avez dit, entre 400 000 et 300 000 personnes arrêtées. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y en a qui sont arrêtés plusieurs fois et qui donc comptent. À chaque fois pour un passage, mais seulement c'est la même personne. Ils sont déportés, ils retournent, et donc là encore une fois, ça change beaucoup les chiffres. Ensuite, il faut voir une autre dimension qui est très importante, c'est qu'il accuse tout le temps les Mexicains, vous voulez nous envahir, bad people, comme il a dit lui-même. Mais il y a de plus en plus de Centre-Américains, et là c'est aussi une dimension essentielle, c'est parce que la situation en Amérique centrale est dramatique, la pauvreté, la misère, la violence, tous ces gens-là franchissent cette immense frontière qui est devenue le Mexique, puisqu'il y a un plan qui a été établi, c'est le plan Frontera Sur, pour empêcher les migrants centra-américains de passer, mais ils passent quand même 400 000, 500 000 par an. Très difficile de savoir exactement combien partent de Tapachula, c'est-à-dire de la frontière avec le Guatemala, pour traverser tout le Mexique en surmontant cet animal fabuleux qui s'appelle la bestia, c'est-à-dire en fait ce sont c'est le chemin de fer, ce sont les trains qui traversent dans des conditions épouvantables tout le territoire. Donc ce sont à l'heure actuelle, pour beaucoup, des Centra-Américains qui sont la menace, entre guillemets, pour les États-Unis.
Et pour abonder justement dans votre sens, quand on regarde le nombre de mineurs arrêtés à la frontière en 2016, plus de 15 000 viennent du Guatemala, plus de 15 000 du Salvador, seulement 10 000 Mexicains et un peu moins de 10 000 du Honduras. Donc on voit effectivement qu'en réalité, les Mexicains représentent une part minoritaire de ces clandestins. Beaucoup viennent d'Amérique centrale, mais d'autres pays, pas du Mexique. Et quand on regarde aussi les chiffres du Bureau du recensement des États-Unis, pour les migrants légaux cette fois, on voit que la Chine et l'Inde ont dépassé aussi le nombre de migrants mexicains.
Oui, mais pas à la frontière. Pas celle-là, pas à la frontière, en tout cas. Oui, oui. Pas celle-là. Oui. Mais ce qu'il faut voir aussi, qui est tout aussi important, c'est que les mouvements nord-sud de Mexicains, maintenant, sont supérieurs aux mouvements sud-nord. Entre les déportés, c'est le mot qui est utilisé, qui est un mot très dur, deportado, entre les déportés et ceux qui reviennent au Mexique de leur plein gré, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui redescendent vers le sud que des gens qui montent vers le nord.
Et ça, on l'a remarqué d'ailleurs, Damien Simoneau, depuis la crise économique de 2008, où là, les flux ont commencé à s'inverser. Il y avait de moins en moins de création d'emplois, et notamment, évidemment, dans les secteurs vers lesquels les immigrés clandestins se tournent, les services, le bâtiment, etc. Et à partir de là, on a vu une inversion des flux. Ça, c'est aussi une chose frappante.
Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'Arizona, donc moi, qui est un État que je connais beaucoup plus, en fait, cette inversion et le fait que beaucoup de Mexicains soient retournés côté mexicain n'empêche pas un certain nombre d'acteurs locaux de continuer à faire de cet enjeu migratoire un des enjeux les plus importants politiquement. Donc je pense notamment à l'ancienne gouverneure de l'Arizona, Jane Brewer, qui avait fait adopter en 2010 la loi SB 1070, donc en anglais, qui autorisait la police à effectuer des contrôles au faciès des papiers d'identité et d'immigration des personnes supposées reasonably suspicious, donc raisonnablement suspecte d'immigration illégale. Donc en tout cas, en Arizona, c'est encore un sujet très important et qui anime encore beaucoup, beaucoup d'acteurs.
Oui, et des acteurs politiques, mais aussi des mouvements citoyens, on le verra tout à l'heure avec vous, parce qu'effectivement, cette sécurisation du mur, elle est prise en charge en partie, bien sûr, par l'État, on va y revenir, il y a tout un historique, mais aussi par des mouvements citoyens, et ça, on reviendra tout à l'heure sur ce point avec vous. Alain Musset, la question du mur et de son coût, alors il y a des fourchettes, on parle de 8 milliards de dollars, D'autres experts évoquent 40 milliards de dollars. Au-delà du prix exact, qu'en réalité personne ne connaît, la question, c'est celle du mode de financement. Donald Trump a dit que d'une façon ou d'une autre, le Mexique allait payer. Alors, il y a cette idée d'une taxe de 20% sur les produits importés, les produits mexicains. Il a été question aussi de prélever peut-être une partie des sommes transmises par les migrants vers leurs familles qui sont restées du côté du Mexique. Qu'est-ce qui vous paraît le plus plausible? Et surtout, quels pourraient être les effets pour le Mexique?
Alors, malheureusement, avec Trump, tout est plausible. C'est vraiment malheureusement, parce qu'il est capable d'à peu près tout et surtout de n'importe quoi. Donc, prenons l'exemple des 20%. On va taxer les 20% des produits mexicains qui vont traverser la frontière. Alors, c'est possible, mais attention, ça veut dire que c'est une remise en cause de l'accord de libre-échange nord-américain. Ou justement,
entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, rappelons-le.
Et avec le Canada aussi. Oui. C'est-à-dire que s'il y a une mesure unilatérale du côté des États-Unis qui va frapper le Mexique, c'est dans le cadre d'un programme global qui englobe 3 pays, et le Canada a aussi son mot à dire, et le Canada n'approuve pas du tout la politique actuelle des États-Unis. Donc, premier point, ça va poser problème. Un traité, ça se tricote, ça peut aussi se détricoter, mais normalement, ça prend du temps. On a vu qu'il était un peu cavalier. Même pour l'interdiction des migrants musulmans aux États-Unis, on voit qu'il y a des juges qui disent « bah non, c'est pas possible ».
Damien Simoneau.
Et en fait,
sur cette possibilité d'un financement, alors on ne sait pas encore comment ça va se faire, mais
surtout que l'on vit actuellement, donc il y a en effet une volonté de la part de Donald Trump de renégocier l'ALENA, hein, le traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique, mais on vit aussi depuis les années 2000 sous le règne de ce qui s'appelle la Smart Border, c'est-à-dire la frontière intelligente qui serait capable de filtrer les flux légaux des flux illégaux. Et il faut rappeler au niveau de la frontière États-Unis-Mexique que cette frontière est une opportunité économique majeure, notamment pour des États frontaliers comme l'Arizona. Et alors moi, c'est des choses que j'ai pu observer. C'est qu'au sein même des républicains de l'Arizona, certains sont en effet très anti-migrants pro-mur, et d'autres au contraire, c'est toutes les associations de commerce transfrontalier, de produits maraîchers, de tourisme, de chambres de commerce des villes frontalières de l'Arizona, qui elles au contraire ont un plaidoyer en faveur de la fluidification de cette frontière, puisque ce sont des millions de dollars.
Et oui, parce qu'Alain Musset, ça c'est une chose que vous connaissez très bien, c'est que ce mur, on l'a vu beaucoup ces derniers temps par le prisme du coût de sa construction, sauf qu'en réalité, c'est aussi un générateur, cette frontière de potentialité économique extrêmement importante. Côté mexicain, on a vu l'apparition des fameuses maquiladoras, ces usines manufacturières tournées vers l'exportation qui, malgré justement la barrière, malgré la frontière, ont totalement en réalité imbriqué les espaces du point de vue social et économique de part et d'autre de la frontière. On a développé une économie extrêmement dynamique qui a fondu en réalité ces espaces frontaliers.
Et tout à fait, c'est un des grands paradoxes. Cette frontière est une frontière dure, hein, disons-le. D'ailleurs, le mur existe déjà en grande partie. Sur plus de 1000 kilomètres, il y a un mur qui a été construit. La surveillance sur cette frontière a commencé au début des années 90. Avec Bush, en 2006, on a renforcé. Ça a été très dur sur 3 grands tronçons. Que vous dites, 1000 kilomètres, plus 1100 kilomètres à peu près. Donc, le mur existe. Mais le paradoxe, c'est que ces deux côtés de la frontière vivent complètement en synergie. Il y a des passages permanents, bien évidemment.
Oui, j'étais frappé. L'année 2015, 181 millions de personnes ont franchi cette frontière. Pour aller vers le Mexique ou aller vers les États-Unis. De façon totalement légale.
Totalement légale et des deux côtés.
C'est la frontière la plus traversée au monde.
Exactement. C'est théoriquement celle qui est, qu'on veut durcir de plus en plus, mais c'est celle qui est la plus traversée. Il y a, en gros, si on compte les points de passage de différentes catégories, il y a un peu moins de 50 points de passage légaux. Ça peut être pour les voitures, ça peut être pour les camions, ça peut être pour les piétons, rien qu'à Tijuana, une ville dans laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans. Il y a plusieurs points de passage, même si officiellement, il n'y en a que 2. Mais effectivement, selon les catégories, ce sont des points de passage différents. Donc, c'est un espace énormément dynamique. L'industrie maquiladora, effectivement, est celle qui a donné cette impulsion, qui a attiré aussi des millions de Mexicains vers la frontière. Mais le but de l'industrie maquiladora, de ses usines d'assemblage, c'était aussi de bloquer à la frontière les Mexicains pour ne pas qu'ils franchissent, en disant, écoutez, vous avez du travail là, c'est pas la peine d'aller de l'autre côté.
Mais alors justement, Alain Musset, et là je m'arrête et puis on passera la parole à Damien Simoneau, mais quand on a instauré ces zones franches dans lesquelles se sont développées ces maquiladoras, L'idée, c'était justement d'inciter les Mexicains à rester chez eux et à travailler chez eux. Là, en taxant les produits venus du Mexique, est-ce que ça risque pas de pousser les Mexicains à franchir le pas et à véritablement venir travailler du côté des États-Unis? Il y a un contre-effet là qu'on peut attendre, en réalité.
Il y a effectivement un contre-effet, parce que si ces usines-là perdent de leur intérêt, il est fort possible qu'il y ait à nouveau des délocalisations, et peut-être ailleurs. Parce que un des grands ennemis, je mets des guillemets dans le vocabulaire de Trump, à l'heure actuelle, ce serait pas le Mexique, ce serait plutôt la Chine. Mmh. Mais l'autre problème, et vous l'avez dit aussi, soit on peut taxer les produits, soit on taxe les fameuses remesas, c'est-à-dire cet argent renvoyé au Mexique, et là, ce serait un désastre.
On parle de 25 milliards de dollars chaque année, les remesas.
Tout à fait.
Les envois d'argent au Mexique, depuis les États-Unis.
Et qui sont facilement contrôlables, parce que ce sont en général par système électronique. Donc on voit très bien ce qui se passe. Il y a des régions entières, notamment dans le sud du Mexique, dans le Guerrero, dans le Oaxaca ou au Michoacán, où il y a même des villages entiers qui ne vivent que de ça. Une partie est allée de l'autre côté et on vit avec ça. Et
là, sans compter que le secteur bancaire pourrait aussi s'opposer à ce genre de mesures, parce qu'il a beaucoup à perdre aussi, le secteur bancaire américain pour le coup.
À chaque fois qu'il y a une remesse, c'est-à-dire de l'argent qui part, eh bien, il y a de l'argent qui est prélevé, évidemment.
Bien sûr. Damien Simoneau.
Oui, en effet, je pense que moi, ce que j'ai pu observer véritablement, c'est que les agents de commerce frontalier, enfin les entreprises de commerce transfrontalier au niveau de l'Arizona, elles militent pour la modernisation et la sécurisation, ce qu'elles appellent des ports of entry, c'est-à-dire des points de passage légaux où sont contrôlés à la fois les camions de marchandises et à la fois les touristes et les personnes qui traversent de manière légale. Et pour elles, ça doit être la priorité. Donc elles voudraient qu'il y ait de l'investissement public fédéral dans ces ports of entry, dans ces points de passage et non pas nécessairement dans des barrières ou des murs supplémentaires.
On parle cette semaine de ce retour des murs. Aujourd'hui, États-Unis, Mexique, le mur de la peur. On est avec Alain Musset et Damien Simoneau.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Donald Trump est à la Maison-Blanche depuis 2 semaines et déjà les relations avec le Mexique sont au plus mal. Il a confirmé ce qu'il avait répété durant toute sa campagne, à savoir qu'il allait donc construire ce mur entre les États-Unis et le Mexique. On le disait, un mur qui existe déjà en partie. Il a confirmé que les Mexicains le paieraient d'une façon ou d'une autre, évoquant donc l'hypothèse de cette taxe dont on parlait, ce qui a déclenché la première crise diplomatique avec le président mexicain Enrique Peña Nieto.
Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán.
Les 50 consulats mexicains aux États-Unis deviendront de véritables lieux de défense des droits des migrants. Nos communautés ne sont pas seules. Partout où il y a un migrant mexicain en danger qui a besoin de notre soutien là-bas, nous serons prêts à l'aider. Je suis attristé et contre la décision des États-Unis de poursuivre la construction des murs qui, depuis des années, loin de nous unir, nous a divisés. Le Mexique ne croit pas aux murs.
Le Mexique ne croit pas au mur, disait le président mexicain le 25 janvier dernier. On va retrouver un nouvel invité, Jorge Castañeda, depuis Mexico, qui est un homme politique, un intellectuel mexicain connu et reconnu, ancien ministre des Affaires étrangères de 2000 à 2003, c'était sous le mandat de Vicente Fox. Vous écrivez, Jorge Castañeda, il y a quelques temps dans la revue Nexos, avec le sénateur de centre-gauche Armando Ríos Peter. Je vous cite, pour la première fois depuis 1980, lorsque Reagan s'en prit à l'URSS, un candidat présidentiel nord-américain a fait activement campagne contre les intérêts nationaux d'un autre pays. Force est de constater, Jorge Castañeda, que l'investiture n'a rien changé à la posture de Trump sur le Mexique. Que vous inspire ce caractère très clairement anti-mexicain du nouveau président américain? De la stupeur, de l'inquiétude, de la colère?
Mon sentiment par rapport à ce qu'a fait Donald Trump en tant que candidat, en tant que président élu et maintenant en tant que président en fonction, effectivement, il y a un sentiment de stupeur, de colère, d'étonnement, mais surtout de tristesse, parce que au Mexique, maintenant, depuis un demi-siècle, nous avons tous fait un grand effort pour essayer d'oublier notre sentiment anti-américain, nationaliste, un petit peu de ressentiment, qui avait des fondements dans l'histoire. C'était pas quelque chose que nous avions inventé de toutes pièces. Nous avions réussi en quelque sorte à laisser ça derrière nous, à avoir un nouveau rapport avec les États-Unis où notre voisinage était vu plutôt comme une grande opportunité, comme un privilège même, et non pas comme un problème ou un défi. Et cela n'a pas été facile. Et aujourd'hui, en quelque sorte, Trump nous dit, écoutez, si vous étiez anti-américain avant, vous aviez raison. Parce qu'on ne vous aime pas, on ne veut rien savoir de vous, alors autant redevenir anti-américain parce que vous allez voir, avec nous, ça ne va pas être pareil. Eh bien, ça ne peut que rendre quiconque au Mexique triste. Personne ne peut se réjouir de cette attitude, effectivement, d'un point de vue personnel. En plus, je fais des cours aux États-Unis 3 fois par an depuis 20 ans maintenant. C'est un pays que j'aime beaucoup, que je connais très bien. Et ça me rend très triste de tout à coup, au lieu d'avoir un pays, un gouvernement ami sur notre frontière nord, nous avons un ennemi. Eh bien, ça me rend très triste.
Comment, selon vous, Jorge Castañeda, il faut s'y prendre avec Donald Trump? Est-ce qu'il va falloir montrer de la fermeté? Est-ce qu'il va falloir se montrer habile, séducteur? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez l'habitude de ce genre de confrontation. Comment faut s'y prendre avec Trump?
Ben écoutez, le séducteur, je crois que ça servirait à rien. Je crois que c'est un petit peu ce que le président mexicain, M. Peña Nieto, a essayé depuis le mois de septembre. Au mois d'août, quand il a invité le candidat Trump à Mexico, une erreur diplomatique et politique énorme. Il faut surtout, je pense, connaître bien les atouts que le Mexique peut avoir, dire quels sont ses atouts et les utiliser s'il faut les utiliser.
Mais avec cette nomination de Luis Videgaray, cet homme sans expérience diplomatique qui devient ministre des Affaires étrangères, sur le principal critère qu'il entretient en réalité de bonnes relations avec le beau-fils du conseiller Donald Trump, est-ce que ça, c'est pas tenter justement la séduction plutôt que la fermeté?
Je pense qu'il y a un petit peu ça et que c'est une erreur. En même temps, c'est vrai que Peña Nieto et Videgaray ont dit que tous les thèmes de l'ordre du jour des deux pays, le bilatéral, sont sur la table, y compris la guerre contre la drogue, y compris l'effort pour arrêter la migration des Centra-Américains à travers le Mexique vers les États-Unis, y compris la lutte contre le terrorisme et les efforts que le Mexique déploie maintenant depuis 15 ans pour empêcher des gens qui veulent faire du tort aux États-Unis de traverser la frontière, de traverser le Mexique. Tout cela est sur la table des négociations. Je pense que de ce point de vue-là, c'est une position juste. Mais il faut être plus clair, il faut leur dire clairement, écoutez, tout ce que nous avons fait pour vous depuis 15 ans, 20 ans, même dans le cas des drogues, presque un demi-siècle maintenant, tout ça, nous l'avons fait dans le passé avec des gouvernements américains qui étaient nos amis, qui étaient nos partenaires, qui étaient nos alliés. Si vous n'êtes plus nos amis, nous n'avons plus aucune raison pour poursuivre cette coopération qui est très coûteuse pour le Mexique de tous les points de vue.
Alors justement, on va en venir peut-être à la question du coût, mais juste encore un tout petit mot sur la perception de l'action de Peña Nieto depuis le Mexique. Dans votre entourage et dans l'opinion mexicaine en général, comment est-ce qu'on perçoit la manière dont le président mexicain Enrique Peña Nieto se comporte face à Donald Trump? Est-ce qu'on le trouve à la hauteur? Est-ce qu'on se dit qu'il se trompe précisément de tactique? Qu'est-ce qu'on en pense?
Premièrement, il faut rappeler que M. Peña Nieto est le président mexicain avec les taux de popularité le plus bas depuis qu'il y a des enquêtes au Mexique. Dans une des dernières enquêtes publiques, il était à 12%, et dans les enquêtes de la présidence elle-même, il était à 9%. Donc, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, il était déjà vraiment détesté par toute la population, et en partie, cette chute de popularité se doit à la manière dont l'opinion publique conçoit sa façon de s'entendre ou de ne pas s'entendre avec Trump depuis quelque temps maintenant, pas uniquement depuis que Trump est à la présidente. Mais cela dit, on ne sait pas exactement s'il est très peu populaire à cause de sa manière de s'entendre avec Trump ou s'il est très peu populaire de toutes les façons et que le facteur Trump n'est pas important. Ce qu'on sait, c'est qu'au Mexique, les gens détestent Trump. Mais vraiment, c'est une haine qu'on n'avait jamais vu. Je n'avais jamais vu, moi, au Mexique, autant de Mexicains qui savent qui est le président des États-Unis. Tout le monde le sait.
Et est-ce que vous pensez que ça pourrait profiter, paradoxalement, à Peña Nieto? Politiquement, est-ce qu'il pourrait retrouver de la popularité, justement, grâce à cette haine contre Trump?
Il pourrait, mais il faut qu'il ait une position beaucoup plus ferme. Et il n'est pas clair pour moi qu'il veuille faire cela. C'est-à-dire, là, quand il a annulé son voyage à Washington après les insultes de Trump par Twitter, et sa popularité a quand même monté quelques points, et les gens en général ont applaudi cette décision de ne pas y aller. Mais elle venait après la décision d'y aller. Je veux dire, il a commis une erreur qui était de vouloir à tout prix être le premier ou le second ou le troisième d'aller à Washington le voir. C'était une erreur. Il a corrigé, tant mieux. Mais je veux dire, il ne peut pas devenir populaire de nouveau en corrigeant uniquement les erreurs qu'il a commises. Il faut commencer par ne pas commettre les erreurs.
Jorge Castañeda, parlons un peu des conséquences économiques et sociales. L'arrivée de Donald Trump a déjà provoqué des secousses économiques au Mexique. On l'a vu, le peso s'est effondré, le prix du carburant a grimpé, ce qui d'ailleurs a provoqué des manifestations un peu partout dans le pays. Je voudrais qu'on regarde peut-être les conséquences possibles à terme pour le Mexique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le gouvernement mexicain, vous nous disiez déjà que la popularité de Peña Nieto était au plus bas, 9-12%, dites-vous. Est-ce que tout cela pourrait déstabiliser le gouvernement? Quelles conséquences politiques, économiques, sociales, avec ce renforcement de la frontière entre les États-Unis et le Mexique?
Écoutez, il y a toutes sortes de conséquences. Pour commencer, les envois d'argent, les remises des Mexicains aux États-Unis vers le Mexique sont un facteur très important dans la balance des paiements mexicains. C'était 27 milliards de dollars l'année passée. Et chaque Mexicain déporté, c'est une famille mexicaine de moins qui reçoit des remises des États-Unis. Et ça, ça peut être très, très déstabilisant et très dur pour des millions de familles mexicaines concentrées dans quelques États. Deuxièmement, la volonté de Trump de renégocier, de rouvrir l'ALENA, l'accord de libre-échange entre les trois pays de l'Amérique du Nord, l'ALENA, peut impliquer une espèce d'arrêt des investissements étrangers au Mexique tant que ces négociations puissent se poursuivre. Les investisseurs, les entreprises étrangères, qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines ou japonaises, vont attendre voir quelles vont être les nouvelles règles du jeu avant de prendre des décisions d'investissement au Mexique. Et ça, c'est très dangereux pour le pays. Et troisièmement, si les grands entrepreneurs, les hommes d'affaires mexicains perçoivent que les choses vont se compliquer avec les États-Unis, eh bien, ils ont toujours eu le même comportement, qui est de transformer leurs entreprises, tout l'argent qu'ils ont au Mexique, en dollars, et de les garder en dehors du pays. Et cette fuite des capitaux peut être vraiment très dangereuse pour le pays. On l'a vu déjà depuis quelques semaines.
Jorge Castañeda, depuis Mexico, donc homme politique intellectuel mexicain, ancien ministre des Affaires étrangères de 2000 à 2003, sous le mandat de Vicente Fox. Jorge Castañeda, qui est un Français absolument parfait, et pour cause, il a passé quelques temps ici en France, il a fait une partie de ses études à la Sorbonne, ce qui explique son très bon français. Alain Musset et Damien Simoneau, je voudrais vous entendre réagir à propos de ce qu'on entendait. Moi, il y a une chose qui m'a frappé considérablement dans les propos de Jorge Castañeda. Je m'attendais à avoir un homme en colère, j'ai un homme triste.
Oui, alors, moi en fait, c'est vrai que cette notion de tristesse, c'est assez intéressant de l'entendre de la bouche d'un diplomate, mais c'est aussi une notion qu'on entend dans la bouche des ONG de défense des droits des migrants dans le sud de l'Arizona, donc qui sont constitués de citoyens américains, et notamment dans la bouche aussi du maire de Tucson, la ville de Tucson qui est à une heure au nord de la frontière en Arizona. Et le maire de Tucson, en effet, se dit triste, puisque c'est une ville, par exemple, qui met en avant, comme beaucoup de villes le long de la frontière, sa biculturalité, le métissage de cette zone, qui est à cheval, en effet, sur une ligne frontière. Et notamment, le maire de Tucson a invité Peña Nieto à venir le rendre visite, notamment dans un espoir de créer d'autres symboles que celui de Trump. Et alors, je voulais juste préciser quelque chose d'intéressant. Quand on regarde la carte des votes, donc de la dernière élection au mois de novembre, on se rend compte que la majorité des comtés frontaliers le long de la frontière sont majoritairement démocrates, donc sont bleus. Ce qui veut dire que cette idée de mur et de séparation, peut-être qu'elle n'a pas du tout le même écho dans ces comtés frontaliers qui sont beaucoup plus habitués, en effet, à un mélange, à des liens familiaux, des liens commerciaux, des liens culturels très forts avec l'autre côté.
Oui, même s'il y a par ailleurs des mouvements qui sont, eux, pour le renforcement de cette barrière, on va y venir. Alain Musset, que vous inspire la tristesse de Jorge Castañeda.
Alors effectivement, il l'a répété plusieurs fois. Ouais. Et ça, c'est fort, je trouve, tristesse. Et c'est quelque chose, comme Damien, moi aussi, j'ai travaillé 4 ans sur la frontière à Tijuana avec les vendeurs de la rue. Beaucoup étant maintenant des deportados, qui ont été expulsés des États-Unis. Et même ceux-là, quand je discutais avec eux, quand je faisais mes enregistrements, n'ont jamais exprimé véritablement de la colère. C'était du regret, de la nostalgie, évidemment le désir de retourner d'une manière ou d'une autre, mais il n'y avait jamais de colère, sauf évidemment quand Quand le policier m'a arrêté parce que j'avais un feu, c'est arrivé à un de mes vendeurs, un feu qui marchait pas sur ma voiture et que à cause de ça j'ai été déporté. Alors là, oui, hein, j'étais en colère. Mais après, non. Et c'est plutôt de la tristesse parce que les liens sont forts. Et ils sont forts, je dirais, depuis des décennies et des décennies, peut-être même un peu plus que ça. Et ça, je crois que c'est une dimension vraiment très importante. Alors, en revanche, il y a une chose aussi qui m'a frappé parce qu'il y a l'aspect politique, hein, qu'il faut voir. Et Jorge Castañeda a insisté là-dessus. Vous avez posé la question sur la situation très inconfortable de Peña Nieto, du président des États-Unis. Ben moi, j'aurais tendance à dire que, de manière tout à fait paradoxale, c'est une affaire qui l'arrange. Et c'est une affaire qui l'arrange parce qu'il était au plus bas dans les sondages, le président le plus mal noté de toute l'Amérique latine. Il y a eu il y a quelques semaines des manifestations importantes et même très importantes un peu partout dans le Mexique à cause du gasolinas, c'est-à-dire l'augmentation des prix de l'essence. Il y avait des gens qui défilaient partout en disant « Fuera Peña Nieto », donc « Dehors Peña Nieto ». Et là, il peut endosser le rôle du chevalier blanc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a dit, hein, dans un de ses premiers discours, après déjà les annonces de Trump, je suis là pour défendre la dignité du Mexique et la dignité des Mexicains. Donc, avec ça, je pense qu'il peut espérer récupérer...
Il peut tirer un bénéfice politique. Il y a une autre question qui se pose. Parce qu'il y a beaucoup de ressortissants américains qui sont partis s'installer au Mexique, notamment sur la côte ouest du Mexique. On a tous ces retraités américains qui sont venus profiter d'un beau climat, d'un beau paysage. Est-ce qu'il pourrait y avoir du côté mexicain les désirs finalement de leur appliquer le même régime que celui qui leur est réservé du côté des États-Unis?
Quelque chose on de, peut difficilement...
Un esprit de revanche, quoi.
Oui, mais on peut difficilement anticiper, mais vraiment, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je pense que là, la politique des Mexicains est beaucoup plus intelligente que celle de Trump, ce qui n'est pas très très compliqué. Donc, à mon avis, ils vont pas prendre des mesures de rétorsion qui, de toute façon, leur
porteront... Ils pourraient l'avoir mauvaise, Alain Musset, parce qu'il faut rappeler quand même un point historique, c'est que toutes ces régions-là, avant la guerre américano-mexicaine 1846-1848, ces régions frontalières, beaucoup étaient sous souveraineté mexicaine. L'actuelle Californie, l'Utah du Nord, l'Arizona, tout cela appartenait au Mexique.
C'est vrai.
Il y a encore 150 ans.
Il y a encore 150 ans. Au début du 19e siècle, tout ça, c'était les provinces intérieures, au départ de la Nouvelle-Espagne, ensuite du Mexique. De manière, là aussi paradoxale, il y avait un nouveau Mexique avant même que le Mexique existe, hein, en tant qu'entité politique. Ça a été perdu suite à une série de guerres désastreuses. Ça a alimenté, bien évidemment, de la rancœur du côté mexicain. Mais cette rancœur, honnêtement, maintenant, elle est en très très grande partie enterrée.
Alors on va poursuivre sur cette question de la sécurisation de la frontière. Alors on va voir qu'il y a deux volets en réalité à tout ça. Il y a les mouvements citoyens dont on va parler tout à l'heure et puis il y a aussi l'action évidemment de l'État. Retour en 2006, le Congrès adopte la Secure Fence Act initiée par George W. Bush.
We must face the reality that
nous devons faire face à la réalité. Des millions de migrants illégaux sont déjà sur notre territoire. On ne devrait pas leur accorder la citoyenneté, car c'est ce qu'on appelle l'amnistie. Et je m'oppose à l'amnistie. Il existe un juste milieu entre l'octroi de la citoyenneté pour chaque migrant illégal et un programme visant à l'expulsion massive. Et j'ai hâte de travailler avec le Congrès pour trouver cet entre-deux. Le projet de loi que je suis sur le point de signer est une étape importante pour la sécurisation de nos frontières et la réforme de notre système d'immigration. Je remercie les membres du Congrès de m'avoir joint en signant le Secure Fence Act de 2006.
Voilà, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, le Secure Fence Act. Damien Simoneau, c'est vrai qu'avec George W. Bush, on a une vraie montée en puissance de la sécurisation de cette frontière, même si on va le voir, en réalité, elle existait déjà avant. Mais qu'est-ce qui va changer, très concrètement, avec cette loi ?
Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit véritablement que l'histoire du mur de Trump est une vieille histoire, en fait, que l'histoire bégaye, c'est-à-dire que les Américains, je dirais pas tous les 10 ans, mais régulièrement redécouvrent le fait qu'il faudrait, voilà, murer la frontière encore plus. Alors, en effet, le Secure Fence Act de 2006 est un élément important, puisque dans les mêmes termes que le décret qui a été signé par Donald Trump le 25 janvier, George Bush disait, il faut aboutir à un contrôle opérationnel de la frontière sud. Donald Trump dit exactement la même chose, enfin, dans le décret dit exactement la même chose. la même chose. Et en effet, en 2006, George Bush voulait construire 700 miles de barrières, installer 700 miles de barrières. Et en effet, il a libéré des crédits, donc validés par le Congrès, pour militariser la frontière. Donc il y a eu en effet des barrières qui ont été rénovées, des anciennes barrières qui dataient notamment à la frontière entre la Californie et le Mexique des années 90, qui ont été modernisées. Donc maintenant, c'était plus des tôles qui étaient des surplus de l'armée américaine qu'elle utilisait comme piste d'atterrissage pendant la guerre du Vietnam, qui avait été installée à la frontière au début des années 90. En 2006, il y a eu un programme de rénovation des barrières où on a mis des espèces de poteaux en acier à travers lesquels justement les agents de la garde frontalière pouvaient éventuellement tirer. Il y a déjà eu des cas d'ailleurs à Nogales en Arizona à ce niveau-là. Et puis il y a eu aussi énormément de projets technologiques qui ont été financés. Donc le Department of Homeland Security, le ministère à la sécurité intérieure américain, a lancé un appel d'offres dans les années qui ont suivi, donc je crois que c'était en 2007, et ils ont recruté Boeing, et Boeing a construit des tours intégrées dans le sud de l'Arizona, c'est-à-dire des tours qui ont des caméras, des capteurs, et qui sont reliés à une base opérationnelle où des ingénieurs de Boeing en lien avec des agents de la garde frontalière ont pu essayer de scanner des régions entières, bien évidemment, et c'est énormément d'argent. Alors pour terminer là-dessus, c'est qu'en fait ces technologies sont en fait dépendantes des conditions météorologiques et elles ont souvent par exemple pris des animaux pour des migrants. Donc il y a eu énormément de problèmes à tel point que il y a eu des auditions au Congrès des ingénieurs de Boeing pour les critiquer en disant ça ne marche pas, et à tel point que Barack Obama, en arrivant en 2009, en janvier 2009, tout simplement gelé les crédits de ce projet spécifique-là. Alors après il en a libéré d'autres pour d'autres technologies, mais en tout cas ce projet là, il a été abandonné.
Et c'est intéressant parce qu'on voit très bien qu'il y a eu plusieurs phases dans la militarisation de cette frontière. Tout commence finalement avec Carter dans les années 70, et puis on va avoir plusieurs étapes. Vous le disiez très bien, il y a les années 80 avec la construction de nouvelles bases pour les patrouilleurs. Il y a 91, on met 22 km de barrière en Californie. On a 96 avec 8 nouvelles clôtures. Et puis entre 2006 et 2012, on a donc ces 1200 km de clôture avec ce dispositif de surveillance de plus en plus technologique, disons, technologisé. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller sur la page de Culture Monde. Il y a une très belle carte qui a été faite par Camille Renard qui montre très bien justement les différentes étapes de cette technologisation et puis de cette militarisation de la frontière. Mais Damien Simoneau, il y a une chose qui frappe, c'est que finalement, depuis Carter, rien ne change, que ce soit les républicains ou les démocrates. On est sensible, on est préoccupé par cette question de la militarisation de cette zone frontalière. En réalité, pas de différence entre républicains et démocrates sur cette question.
Alors, pour moi, on est en fait tous ces différents acteurs, au-delà de seulement vouloir par la militarisation contrôler les mobilités extérieures, des mobilités de migrants, de contrebandiers, de filtrer en fait ces mobilités en fonction du statut du régime de visa pour autoriser certains migrants à venir ou non. Pour moi, cette dimension-là, elle se dote aussi d'une dimension de réassurance. C'est-à-dire que ce mur, il s'inscrit dans ce que j'appelle moi le spectacle politique du territoire muré, c'est-à-dire qui n'est pas valable qu'aux États-Unis, on le voit ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que des acteurs vont décider la militarisation de la frontière pour prouver à leurs opinions publiques qu'ils sont capables de maîtriser, alors une conséquence négative de la mondialisation, montrer leur volontarisme politique, et cela en faisant fi, en fait, de la capacité de la militarisation à véritablement contrecarrer ces flux, puisque les mobilités se jouent de la militarisation. Qui dit mur dit tunnel, et il y en a notamment à Tijuana, je pense à la Casa de los Tuneles, qui est maintenant un musée à Tijuana. Les contrebandiers de drogue ont même utilisé dans le désert de l'Arizona des rampes pour faire passer leur jeep sur les murs, et il y a notamment une jeep qui a été retrouvée alors à l'automne 2012 dans le désert par les agents de la Border Patrol complètement vide. Donc on voit bien qu'il y a une capacité de subversion des mobilités. Néanmoins, régulièrement aux États-Unis, le spectacle politique du territoire muré se joue, et Donald Trump n'est que le dernier acte de ce spectacle qui a été
joué.
Mais
les démocrates n'échappent pas au spectacle.
Les démocrates l'ont
Obama, voilà. Clinton, etc. Alain Musset.
Oui, effectivement. Clinton, au cours de son mandat, a largement financé la question du mur avec deux choses. C'est que dans un premier temps, l'idée, c'est de faire le mur aux endroits stratégiques. On sait qu'il y a des endroits de passage
passage. On peut les visiter à Tijuana. Genre, maintenant, on peut...
Vous les avez vus?
Oui, bien sûr, oui, oui. Bah, c'est fait partie de mon travail, quand même.
Non, donc... non, je dis ça parce que les auditeurs ne voient pas. Vous êtes venu avec votre casquette Tijuana. Vous connaissez très bien Tijuana. Hein, donc,
il y a des endroits qui servaient de passage. C'était connu. Bon, maintenant, c'est complètement fermé. Et comme l'a dit Damien, je veux dire, avec la Smart Border, la frontière intelligente, ça devient de plus en plus compliqué. Les tunnels, ils existent, hein, je veux dire, mais ils existent dans la réalité, mais aussi font partie des images. Il y a une série américaine qui s'appelle Weeds, qui se passe à la frontière, et il y a justement un mur qui passe par-dessous. Un mur, pardon, excusez-moi, un tunnel qui passe par-dessous. Et là, ça fait aussi partie de cette ambiance de la frontière.
Si vous portez un M16 rifle avec un plastic stock, and you make that plastic noise, there's nothing down in that canyon but an M16 rifle is going to make that noise.
Si vous portez un M16 avec la crosse en plastique et que vous faites ce bruit de plastique, rien d'autre dans ce canyon ne fera ce bruit de M16. Alors ils vont vous entendre et sauront qui vous êtes. Alors ils fuiront dans l'autre direction. Donc il faut maîtriser l'équipement, la technique et la façon de procéder pour garantir la sécurité des gardes aux frontières. Tout ceci pour ne pas être découvert à aucun moment. Et si on voit le type conduire sur la route, c'est une chose. Mais s'il est à pied, alors il est plus vulnérable et on ne peut pas dévoiler notre position jusqu'à ce qu'on soit assez proche pour le toucher. C'est compliqué pour les gardes-frontières. Voir ces gens, ça ne représente rien. Pour les appréhender, il faut s'approcher suffisamment près d'eux de façon à pouvoir poser vos mains sur eux. C'est là que ça devient de l'art et c'est là que c'est compliqué.
Voilà, extrait d'un documentaire Broken Land qui avait été diffusé sur Arte en 2015, parce qu'effectivement, l'État sécurise cette frontière, mais les simples citoyens également. Et justement, Damien Simoneau, vous avez eu l'occasion de vous plonger dans ces mouvements promus, on va le dire comme ça. Vous avez créé cet article entre suprématie blanche et cybersécurité, sous-titré « Mutation contemporaine des pratiques de vigilantisme en Arizona » dans la revue Politics. On a vu apparaître ces dernières années des groupes de surveillance citoyennes comme l'American Border Patrol. Ils sont devenus assez populaires. Vous racontez que ils ont vraiment pignon sur rue. Ils organisent chaque année, vous expliquez ça, un barbecue géant, le Border Flag Barbecue, à l'occasion duquel on peut entendre des concerts country, mais aussi évidemment des discours de responsables locaux. Comment définir ces groupes? C'est des mouvements citoyens, c'est des ONG, c'est des groupes paramilitaires, c'est des milices, c'est quoi?
Alors du coup, c'est très intéressant l'enjeu de la définition, parce que du moins avec des collègues justement à Sciences Po Paris, Gilles Favrel-Garrigue et Laurent Gaillet, il y a eu donc un atelier pour essayer d'envisager cette notion de vigilantisme de manière comparée. Et en effet, aux États-Unis, eh bien c'est citoyens qui décident de prendre... to take the law into their own hands, en anglais, c'est-à-dire de se faire justice eux-mêmes, eh bien, leur dénomination est sujette à controverse. Parce que pour certains, ce sont des vigilantes, donc en anglais, ça veut dire des hors-la-loi, donc des gens qui flirtent avec la légalité pour essayer de chasser des migrants. Et pour d'autres, ce sont des patriotes, c'est-à-dire des citoyens engagés qui font œuvre de défense du territoire face à ce qui est codé par beaucoup d'acteurs aux États-Unis, comme une invasion de Mexique.
Mais ils sont dans la loi ou ils sont hors de la loi? Vous dites ils sont entre les deux, j'entends bien, mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils sont pas loin d'être dans le cadre de la loi alors?
Alors, le fait est que en fait, aux États-Unis, le second amendement de la Constitution américaine de 1791, qui autorise le port d'armes, consacre aussi le droit des citoyens à se constituer en militias pour la sécurité de l'État, pour assurer la sécurité de l'État. Donc, dans ce phénomène de vigilantisme aux États-Unis, il y a un aspect légal. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une reconnaissance du droit du citoyen à faire ça, ce qui peut nous apparaître complètement ridicule en France. Par contre, il y a aussi une dimension historique. Il faut savoir que les États-Unis, qui se sont constitués via une dimension de front pionnier, eh bien, pour assurer la sécurité dans ces zones de l'Ouest qui ont été conquises par la force, eh bien, ils n'avaient pas nécessairement des autorités étatiques clairement établies. Donc, ce sont des citoyens qui se sont mis à faire la sécurité. Donc, en effet, ils ont le droit de faire ça. Néanmoins, ils flirtent avec l'illégalité. C'est-à-dire qu'il y a des cas où, alors moi j'en ai étudié quelques-uns, où des groupes ont tenu en joue des migrants, les ont tabassés, leur ont volé un certain nombre d'effets personnels, avant que les agents de la garde frontalière n'arrivent dans ces zones semi-désertiques pour justement procéder à leurs arrestations. Et du coup, les migrants qui ont accepté de porter plainte ont réussi à faire condamner certains de ces groupes. Et
Oui, il y a régulièrement des condamnations.
Voilà, il y a régulièrement des condamnations. Donc ces groupes-là savent qu'ils agissent dans un périmètre un peu balisé et qu'ils doivent constamment prouver qu'ils agissent selon des cadres légaux. Alors par exemple, moi je parle d'un groupe, l'Arizona Border Recon, qui met en avant le fait qu'ils ont des procédures d'engagement, donc des procédures
chartes précises, ou des choses comme ça.
Voilà, pour contrôler par exemple si les personnes arrêtées dans le désert ont des armes, pour tout simplement appeler immédiatement la garde frontalière. Donc ils essayent de faire montre d'une certaine forme de légalité. Néanmoins, eh bien, dans ces interstices avant l'arrivée de la Border Patrol, eh bien, on est dans une zone désertique. Voilà, on ne sait pas.
Je vais vous faire réagir, Alain Musset, mais il y a encore un point sur lequel je voudrais vous entendre, Damien Simoneau, parce que dans votre titre, je lis bien entre suprématie blanche et cybersécurité. Est-ce que ça veut dire que ces mouvements citoyens sont une expression du courant suprémaciste américain ?
Voilà, alors moi, dans cet article, ce que j'essaye de démontrer, en fait, c'est qu'il m'a semblé que ces deux groupes que j'ai étudiés étaient beaucoup moins des chasseurs de migrants, c'est-à-dire que leur rencontre avec les migrants, on peut en douter, hein, c'est pas quelque chose qu'ils mettent en avant, mais sont beaucoup plus des wannabes experts de la sécurité. C'est-à-dire qu'ils s'ancrent véritablement dans la militarisation de la zone, et du coup, c'est-à-dire qu'ils testent des technologies, ils mènent des opérations commando dans le désert, ce sont des vétérans de l'Irak ou de l'Afghanistan, donc ils essayent de revivre ici un mode de vie militaire qui, quelque part, les définit, hein, qui contribue à leur identité personnelle. Et cet engagement dans l'expertise, qui est une nouvelle corde à leur arc de vigilantisme qui est propre à l'époque contemporaine, eh bien, leur permet d'euphémiser leur rhétorique nativiste, raciste, anti-migrant. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est parce que...
Mais on n'est pas des racistes, on est des spécialistes des déo-technologies.
Voilà,
quoi.
Exactement. Ouais. Ça leur permet de se présenter différemment. D'accord. Et du coup, moi, quand j'ai fait des entretiens avec eux, étant donné que je suis un petit Français... Voilà, on m'a clairement fait comprendre que je pouvais comprendre que quand même il y avait trop de Mexicains aux États-Unis et donc, mais ce ne sont pas des choses qu'ils vont afficher. Du coup, ils vont plutôt mettre en avant leur expertise sécuritaire.
Alain Musset.
Oui, effectivement, Damien a tout à fait raison. Ce sont des gens qui utilisent des drones, des avions, les caméras de surveillance. Ils sont branchés sur les caméras installées officiellement parce qu'on a le droit de les utiliser. Donc, en permanence, il y a des gens qui regardent de chez eux la caméra fixée sur la frontière pour voir s'il n'y a pas des gens qui passent. Donc l'utilisation, l'hypertechnologie de ces gens est assez considérable. Ce qui n'empêche pas, je dirais, la joie pour eux, disons-le, de la chasse aux migrants. Disons-le carrément, hein, je dirais, ils font de la chasse à la place du cerf, eh ben, ça va être le Mexicain.
If you consider getting off the couch and doing something extreme, then go ahead, call me an extremist.
Si vous considérez que sortir de son confort et faire quelque chose est une chose extrême, alors oui, dites que je suis un extrémiste. Mais je ne vois pas les choses de cette façon. Vous savez, on nous appelle de tous les noms. Nazis, racistes, assassins. Mais appelez-moi comme vous voulez. Moi, je suis juste un citoyen qui aime son pays et qui ne veut pas le voir partir en sucette. Et c'est comme ça, quand on ne sait pas qui traverse, qu'on ne peut pas le parrainer parce qu'il n'a pas de papier et qu'au pays, ils ne sont pas recensés, que tous les recensements ont disparu et donc sans recensement, vous ne pouvez pas savoir qui est qui.
Voilà, alors cet homme qu'on vient d'entendre, c'est Tim Follet, le fondateur de l'AZBR, l'Arizona Border Recon. Je voudrais qu'on s'intéresse un tout petit peu au profil d'Damien Simoneau. Quand on regarde le profil de cet homme, ancien militaire, ouvrier du bâtiment à Phoenix, licencié en 2008 lors de la crise économique, donc c'est une victime de la concurrence de ce qu'on appelle les illegal Mexicans. C'est un soutien de Trump, ça, de toute évidence.
Oui, de toute évidence. Alors, j'ai analysé un petit peu leur page Facebook et leur site internet. Ils sont absolument dithyrambiques sur Trump et ils espèrent beaucoup de cette annonce de mur, même si une de leurs fonctions aussi, c'est de surveiller les surveillants. Donc, ils vont absolument garder un œil critique sur les progrès de la militarisation pour mieux dénoncer ce qui, selon eux, ne se fait pas en termes de militarisation. Pour revenir sur le trajectoire, alors, en effet, il y a des trajectoires très variées pour en venir au vigilantisme. Alors, il y a un travail d'un sociologue américain qui s'appelle Harel Shapira, qui a fait un bouquin qui s'appelle Waiting for José, qui s'est immergé dans des groupes de Minutemen, donc c'était à l'époque en 2006-2007, et qui voit que les profils sont très divers. On a globalement soit des anciens militaires, soit en effet des gens qui, à un moment donné, ont perdu leur emploi et vont faire porter la pause justement sur l'hispanisation de la société ou sur les migrants mexicains Mexicains qui, soi-disant, leur prennent leur travail. C'est le cas de Tim Follet. Moi, il a beaucoup insisté là-dessus.
Et vous l'avez rencontré, hein?
Oui, je l'ai rencontré. Et du coup, il a décidé ensuite, un peu comme un entrepreneur, de monter. Enfin, il a d'abord rejoint des groupes de vigilantes existants. Puis ensuite, pour des histoires d'inimitié, il a décidé de construire son propre groupe. Et là, on a véritablement un entrepreneur du vigilantisme.
Alors justement, je vous arrête, entrepreneur, comment gagne-t-il de l'argent? Comment est-il financé?
Alors ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose qui est assez mystérieux. Alors, selon lui, il bénéficie de donations, donc en ligne, puisqu'en effet, vous le disiez tout à l'heure, Alain Musset, en fait, toutes ces caméras postées qui sont ensuite retransmises sur Internet, eh bien, permettent d'alimenter tout un réseau anti-migrants aux États-Unis, hein, qui sont aux quatre coins du pays, et tout un système de donations, d'appels aux dons pour financer telle
ou telle opération. Donc, ce sont les Américains patriotes qui vont donner de l'argent directement à son groupe.
Voilà,
comme Alain Musset.
Comme celles et ceux qui donnent de l'argent à Trump, hein, puisque c'est autorisé. Hein, donc on peut recevoir tout l'argent qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie, encore une fois, de ce fameux, bon, Damien l'a dit, de ce fameux acte patriotique. L'État est défaillant. Puisque l'État est défaillant, eh bien, je prends sa place. Et c'est vrai, on est là dans le Far West. On va élire le shérif parce que c'est finalement le plus brutal et donc le plus efficace, entre guillemets, etc. etc. On est dans cette même logique. On est sur une border, hein, sur une frontière dans le sens classique, mais on est toujours dans le sens américain, dans la frontière. C'est-à-dire dans ce territoire qui s'avance, qui n'est pas complètement maîtrisé, qu'il faut civiliser. Et là, on est menacé par des nouveaux sauvages, hein, c'est-à-dire les Mexicains, les Centra-Américains.
C'est quelque chose qui pénètre très loin dans l'histoire des États-Unis, en réalité, tout ça.
Ah, mais bien sûr, la marche vers l'Ouest, c'est la marche de la civilisation. Et cette marche de la civilisation, à l'heure actuelle, à un moment, elle s'est heurtée à l'État mexicain. Maintenant, ce n'est pas l'État mexicain, ce sont les Mexicains eux-mêmes. Et donc, c'est une continuité. Mais si je puis me permettre...
Allez-y,
juste
quelques secondes,
pour mettre de l'humour aussi. Il y a Guillermo Sheridan, qui est un romancier américain, mexicain, qui, en 1996, a publié un livre qui s'intitule « El dedo de oro », le doigt d'or. Hein, et dedans, il parle du Mexique en 2029 et il dit que les États-Unis ont annexé tout le Nord. Ils ont créé un nouveau mur, le président Merlin, donc c'est le mur de Merlin, et les Mexicains sont ravis parce qu'ils ont beaucoup moins de chemin pour franchir la frontière.
« El dedo de oro ».«
El dedo de oro », le doigt d'or. China, I talk about the border. I went to a great school, I did well, smart guy. When I say we're gonna build a wall, they all say you can't build a wall.
Ah, une musique composée autour des discours de Donald Trump qui prône cette idée du mur entre les États-Unis et le Mexique. Un grand merci à vous deux, Alain Musset, Damien Simoneau, d'avoir été avec nous. Je rappellerai vos ouvrages Le Que sais-je, mais aussi Le territoire de l'attente, mais également votre article, Damien Simoneau, entre suprématie blanche et cybersécurité. On va mettre tout ça sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent y aller, le lire, pour en savoir plus. En tout cas, un grand merci de nous avoir accompagnés ce matin. Poursuivra bien sûr nos pérégrinations autour de ce retour des murs demain, mais pour l'heure, on retrouve Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Eh ben justement, un bras de fer est engagé entre le président américain dont on parlait récemment élu et les médias aux États-Unis. Mais il n'y a pas que dans ce pays que les médias sont aux prises avec des difficultés nouvelles. Cette semaine, vous nous proposez un tour du monde de l'état de la question. On va commencer justement par les États-Unis.
Avertissement de Newsweek. La dernière fois que les États-Unis ont vécu une hostilité réciproque entre la présidence et les médias, c'était au début des années 70, lorsque Richard Nixon, triomphalement réélu en 72, se croyait invulnérable. Il y eut alors une véritable guerre entre le premier et le quatrième pouvoir. Et cette guerre, ce furent les médias qui la gagnèrent. Le 9 août 1974, pour éviter l'humiliation de l'impeachment, Richard Nixon démissionnait. C'est un précédent que Donald Trump devrait méditer, prévient Newsweek, car ce qui est en jeu est colossal. Aux yeux des médias, l'équipe Trump est composée de personnages qui, je cite Newsweek, ne sont pas seulement des manipulateurs, mais des nigauds. Ils mentent comme ils respirent, ils présentent leur version alternative des faits lorsque ceux-ci leur déplaisent, aveuglés par leur idéologie, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour conseiller un leader lui-même dépourvu de toute expérience politique. Durant la campagne, les médias ont donc cherché l'argument fatal qui détruirait définitivement les chances de celui qu'ils considéraient comme inapte au poste. La seule chose qui importait, c'était d'infliger cette blessure fatale, écrit Newsweek. Fred Hyatt, dans les colonnes du Washington Post, le confirme. Dans les pages éditoriales, nous avons passé la plus grande partie de ces deux dernières années à avertir le pays de ne pas élire Donald Trump. Or, cela n'a pas marché. Du coup, aux yeux du président élu, les médias se sont trompés si lourdement sur ses chances au cours de la campagne qu'ils devraient aujourd'hui faire profil bas. Sa stratégie est de présenter les gens des médias comme de pathétiques pharisiens ayant perdu tout contact avec l'Amérique réelle. Il a ainsi demandé pourquoi aucun des journalistes qui ont annoncé régulièrement qu'ils n'avaient vraiment aucune chance d'être élus n'a été viré. Il estime que c'est leur crédibilité davantage que la sienne qui a été ébranlée durant la campagne électorale. Et pour lui, c'est clair. La guerre, elle a déjà eu lieu et c'est lui qui l'a gagnée puisque le voilà, malgré eux, président. Alors l'erreur de Trump est de croire que les médias présentent contre lui un front unanime. Les États-Unis sont une démocratie, les médias y sont pluriels et partagés. Mais l'erreur des médias, aujourd'hui, c'est de se croire face à un nouveau Nixon. Trump, lui, n'est pas paranoïaque, dit Newsweek. Non seulement il anticipe les réactions des médias, mais il les provoque. Cela fait partie de sa stratégie de gouvernement. Il attise leur indignation parce qu'il estime qu'elle le sert aux yeux du public. Cela peut mener à une crise constitutionnelle, conclut Newsweek. Voilà donc admis que les médias constituent un quatrième pouvoir capable, comme les deux autres, de provoquer la chute du premier. Mais d'ajouter que si la Maison-Blanche acquiert la conviction que l'objectif unique des médias est sa destruction, alors elle fera tout pour assurer sa survie et cherchera les moyens de briser cette vague, comme elle le fait déjà pour briser la vague migratoire.
Mais alors de quel poids pèse aujourd'hui aux États-Unis ce quatrième pouvoir? Le quotidien La Croix a publié vendredi son dernier sondage sur la crédibilité des médias. Que nous apprennent justement des sondages du même genre aux États-Unis?
Oui, je rappelle que selon le sondage de La Croix, dans le cadre d'un effritement général de cette crédibilité, notre vecteur à nous, la radio, reste considéré comme le plus fiable par le public français, avec 52% de opinion positive, alors que la presse écrite est tombée à 44% et les télévisions à 41% et que la confiance en ce qu'on trouve sur Internet s'effondre, elle, à 26%. Mais aux États-Unis, le dernier sondage Gallup, qui date de septembre dernier, montre une chute très sensible de crédibilité affectant l'ensemble des médias. Et le plus préoccupant, c'est que cette dégringolade est régulière depuis un certain temps. La confiance envers les médias était au plus haut dans ce pays en 1976, avec un taux de crédibilité de 72%. Les médias, engrangeant les bénéfices que leur avait valu la couverture du Watergate et de la guerre du Vietnam, en 1995, il restait encore 55% d'Américains pour faire confiance à leurs médias. Depuis, la chute a été régulière et il n'en reste plus que 32% en 2016. La partialité dont ils ont fait preuve en soutenant très massivement Hillary Clinton leur vaut une extrême méfiance de l'électorat républicain. Si une majorité d'électeurs démocrates continue à faire confiance aux médias à 51%, on ne trouve plus que 14% d'électeurs républicains à en faire de même. Enfin, ce sont les plus jeunes qui font le moins confiance aux médias aux États-Unis. Conclusion de Gallup, aujourd'hui, un tiers seulement des Américains accordent quelque confiance au quatrième pouvoir. Stupéfiante évolution pour une institution conçue pour informer le public. Explication de Gallup, quand sous l'influence des blogs et des médias sociaux, écrire selon ses opinions devient plus ou moins la norme, les Américains tendent à devenir méfiants. Fin de citation. Ce qui conduit un rédacteur du site d'information indépendant de Washington, The Hill, à écrire que les médias devraient se contenter de leur rôle traditionnel, qui est de demander des comptes aux trois autres pouvoirs au nom du peuple. Le parti d'opposition s'appelle le Parti démocrate et il s'apprête à jouer très bien son rôle, écrit The Hill. Il n'a pas besoin de l'aide d'un parti des médias qui se prend pour un autre parti d'opposition.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. On va bien sûr filer tout au long de la semaine ces difficultés, ces confrontations. On va parler de ce quatrième pouvoir dans plusieurs pays. Un grand merci Brice Couturier. Dans un très court instant sur France Culture, on retrouve La Grande Table.